Y a-t-il des questions? Monsieur Mogère. Allez-y, vous avez la
Merci,
parole, mon cher
Président.
collègue.
Merci. Alors, il s'agit ici de l'avenir de la Cité Jardin de la Butte-Rouge, pionnière des écoquartiers d'aujourd'hui. Dans son avis sur cette modification du PLU, le préfet avait fait du classement de ce site en site patrimonial remarquable, un préalable à toute opération de réhabilitation. Monsieur le maire de Châtenay-Malabry, en commission, nous avait indiqué qu'il accédait à cette demande de classement qui émane notamment du ministère de la Culture. Les services du territoire ont ajouté, toujours en commission, que notre conseil sera amené vers la fin de l'année à constituer une commission locale de sites patrimoniaux remarquables. Mais entre-temps, la demande de classement devra être accompagnée d'un document de gestion du site. Et ce document pourra prendre deux formes. Soit la forme d'un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. C'est une sorte de PLU amélioré, peut-être le même que celui que nous examinons ce soir, et qui ne préserverait sans doute que 15 à 20% du bâti actuel de la Cité Jardin. Il peut aussi prendre la forme d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur, qui est plus contraignant et permet de sauvegarder tout un secteur, tel celui de la Cité Jardin. Le ministère de la Culture précise que la prescription d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur concerne surtout des ensembles urbains à valeur historique exceptionnelle. Êtes-vous d'accord, chers collègues, sur le fait que la Garden City, Butte Rouge, comme on dit dans les écoles d'architecture à l'étranger, constitue bel et bien un ensemble urbain à valeur historique exceptionnelle, et qu'il convient donc de mettre en place un véritable plan de sauvegarde, comme André Malraux les avait institués, c'est-à-dire un PSMV. Dans ce cas, la modification du PLU proposée n'a plus véritablement de sens et devra s'effacer devant le plan de sauvegarde. Cette option mènerait à une réhabilitation véritablement respectueuse du patrimoine exceptionnel que constitue la Cité Jardin. J'espère évidemment qu'il y aura la mise en place de ce plan de sauvegarde et c'est pourquoi je voterai contre la modification du PLU qui est proposée.
Merci, Monsieur Mergy.
Oui, merci, Monsieur le Président. C'est un projet qui présente plusieurs problématiques. La première problématique, c'est celle que vient d'exposer David, à savoir que il est envisagé de détruire à 80% un patrimoine architectural et arboré remarquable, comme le vient de le dire David, et à la fois les deux dernières ministres de la Culture, Mme Nyssen et Mme Bachelot, à la fois des personnalités comme Stéphane Bern, des associations de défense du patrimoine, tout le monde s'est mobilisé effectivement pour défendre ce patrimoine remarquable. C'est une deuxième problématique, ben c'est la transformation totale d'un quartier. C'est-à-dire que le projet prévoit la destruction de 1 500 logements sociaux PLAI, leur remplacement par des logements accession à la propriété. Alors on va nous dire effectivement il faut prôner la mixité sociale dans ce quartier comme dans tous les quartiers. Le problème c'est que la mixité sociale elle est toujours pensée de la même manière, c'est-à-dire que dans les quartiers où il y a des logements sociaux, au lieu d'engager des plans de réhabilitation complets comme c'était le cas à Bordeaux, comme c'était le cas à Stains, où effectivement on est capable avec les techniques d'aujourd'hui, en plus c'est un coût financier, un coût écologique plus faible de réhabiliter complètement, d'en dire on détruit complètement parce que l'habitat est dégradé, les conditions de vie des locataires sont pourries, etc. Et ensuite, on reconstruit pas intégralement les logements sociaux qui sont détruits. On construit beaucoup de logements privés et donc il y a un certain nombre de personnes. C'est le cas à Fontenay-Rose, au Blagy, mais c'est aussi le cas à la Cité Jardin, à Châtenay-Malabry, si le présent projet va jusqu'au bout. Ben, il y a des gens qui pourront plus se reloger dans ce quartier, qui devront progressivement s'éloigner du cœur de Paris. Et donc, on expatrie, on discrimine, on expulse des gens qui n'ont plus la possibilité de loger dans des conditions économiques et sociales acceptables. Et donc, à minima, je pense qu'il faut soutenir la proposition de David sur un plan de sauvegarde. Et il faut repenser effectivement l'aménagement de ce quartier. On n'est pas pour l'immobilisme, on n'est pas pour laisser les gens dans leur jus, comme on nous accuse parfois, y compris à Fontenay-Rose. On est simplement pour préserver des conditions de vie, préserver un patrimoine architectural et arboré remarquable et permettre à des gens qui n'ont pas des moyens financiers extraordinaires de continuer à loger dans le quartier où ils ont vécu, où ils ont grandi, où ils sont allés à l'école, quoi. Voilà, je vous remercie.
Alors, Madame Parmentier. Ouvrez votre micro, Madame Parmentier, si vous souhaitez que vos propos restent et d'une certaine postérité relative, j'entends.
Est-ce que vous m'entendez?
Ça y est, on vous entend. Vous avez la parole.
Mais bon, excusez-moi. Merci, Monsieur le Président. Oui, je disais que je partageais... les interventions précédentes sur les inquiétudes, hein, sur la préservation de ce site, je pense comme de nombreux habitants de notre territoire et bien au-delà, sur les inquiétudes aussi sur la reconstruction du logement social. Mais pour autant, j'avais peut-être une idée de valider une modification de PLU et compte tenu de l'ampleur en fait des propositions de modification, je me demande pourquoi il n'est pas question d'une révision plus que d'une modification de PLU à ce stade. Et compte tenu du fait que nous avons entamé dans le cadre de ce territoire les travaux pour la construction d'un PLUI, et vous avez pu intervenir précédemment sur une délibération concernant un projet d'aménagement à Clamart assez ambitieux, et sur lequel vous avez posé le fait que peut-être ça pouvait se réfléchir dans le cadre du PLUI. Donc je me demandais, pour ce site remarquable, s'il n'y avait pas quand même un intérêt à que ça puisse se travailler dans le cadre d'un PLUI, et pourquoi cette urgence de passer ces modifications qui sont de réelles révisions de PLU, plus que des modifications de mon point de vue, dans le cadre de ce conseil de territoire et de cette délibération. Par ailleurs, j'ai cru comprendre un autre point sur lequel on a attiré aussi mon attention sur l'enquête qui a eu lieu. L'enquête s'est déroulée entre le 20 décembre et le 11 janvier pour une enquête publique sur la nature de ces modifications, sur l'importance de ce quartier, de cet éco-quartier et sur l'ambition du futur projet. Je trouve que c'est toujours compliqué de faire une enquête assez courte sur des périodes qui sont peut-être pas forcément toujours des périodes où on va dire la démarche utilisée dans ces périodes-là, alors que l'enjeu est important. Et il semblerait qu'à l'issue de cette enquête, 86% des avis étaient défavorables sur le projet. Il me semble important aussi de rappeler dans ce territoire que toute modification de projet, d'aménagement, et que puisse être concertée avec les habitants, et que la parole des habitants fait quand même sens. Et il semblerait que les habitants qui se sont exprimés au nombre 1600 sur cette enquête, malgré la période et le temps assez court, hein, qui leur a été donné, ne sont pas prononcés réellement sur un avis favorable. Pour toutes ces questions, j'attends d'abord des réponses sur les options qui ont amené à effectivement présenter des modifications plus qu'une révision, à s'inscrire dans ce calendrier très très rapide, alors que peut-être qu'il serait nécessaire, compte tenu de l'importance de ce projet, de prendre son temps pour le poser. Et pour toutes ces questions, je m'interroge sur la position que je vais retenir à l'issue de vos réponses. Je vous remercie.
Benoît Blot souhaitait prendre la parole également, ou c'est une main accidentelle?
C'est pas une main accidentelle, Monsieur le Président.
Allez-y, Monsieur le Vice-président.
Merci beaucoup. Je voudrais prendre la parole et je voudrais m'adresser directement à Monsieur Carl Segault, le maire de Châtenay-Malabry. Je vais me permettre, parce qu'on se connaît un peu, de l'appeler par son prénom. Je veux dire, Carl, toutes ces balivernes, il y a 30 ans, on a entendu les mêmes au plus de Robinson. Fallait rien faire, fallait aller doucement, il y avait plein de problèmes, d'accord? Donc c'est la longue marche, mais en tout cas, il faut pas que tu lâches. Donc je vois Jacques, là, qui sourit, tout ça, on l'a déjà entendu. Mais aujourd'hui, on proposerait aux gens qui habitent la Cité Jardin au bord de la rivière de tout raser et de reconstruire ce qu'il y avait avant, ils nous prendraient pour des fous. Donc c'est ni aux élus de Fontenay, ni aux élus d'Antony, ni aux élus d'ailleurs, c'est à toi que la population de Châtenay-Malabry assez confiance. Le chemin, on l'a fait avant toi. Ça va pas être facile, ça c'est sûr. Mais en tout cas, il y a une chose aussi qui est sûre, c'est toi, c'est vous qui savez avec l'appui de Georges, c'est vous qui savez comment vous devez construire. C'est à vous que la population a fait confiance et faut pas lâcher cette affaire. Maintenant, il est temps d'aller de l'avant. Et je suis sûr que ça va être parfait. Et en tout cas, Loisac Perrin, je suis sûr qu'il sera d'accord avec moi. On peut te dire que le Plessis Robinson et l'ensemble des élus du Plessis Robinson ont connu la même démarche que toi et les mêmes balisernes que toi. On est tous derrière toi.
Je souscris pleinement.
Merci à tous les deux. Le vice-président Vastel a également demandé la parole. Cher Laurent, à moins qu'il s'agisse d'une main levée accidentelle également.
Non, voilà, je suis là.
Et voilà.
Oui, moi je voudrais simplement remarquer, il est dommage de vouloir créer de la confusion sur les opérations de rénovation urbaine, qui sont en fait chacune différentes et chacune, bien sûr, qui ont leurs propres particularités. Il a été dit des choses qui sont assez sensiblement fausses sur la rénovation, notamment du quartier des Paradis. D'abord, les réhabilitations ne sont pas forcément moins coûteuses que les destructions et reconstructions, dès lors qu'on est obligé de travailler en site non occupé. En fait, c'est ça la principale variable. Et dès lors qu'on est obligé de travailler en site non occupé, par exemple, quand il y a de l'amiante dans certains bâtiments, eh bien, on est sur des coûts qui sont extrêmement voisins, avec souvent un niveau de confort, de pérennité de la réhabilitation et de performance énergétique qui sont très supérieurs lorsqu'on fait une reconstruction. Deuxièmement, expliquer que des gens vont être exclus, c'est un petit peu dommage. C'est une façon de faire des politiques qui cherchent finalement à capter l'attention des gens par la peur. Mais c'est pas des méthodes que j'estime très estimables, notamment sur la réhabilitation que nous menons au quartier des Paradis. La garantie de maintien dans le quartier a été bien évidemment donnée à tous les habitants qui le souhaitent, aux mêmes conditions de loyer, au mètre carré, ce qui est un engagement du bailleur que nous avons validé dans le cadre d'une charte de relogement. Tout ça est fait de façon très claire, avec, je crois, l'assentiment assez majoritaire des personnes concernées. Alors, bien sûr, il y a des gens qui souhaitent quitter le quartier depuis longtemps. On ne va pas les obliger à rester dans le quartier à l'occasion du relogement, mais tous ceux qui le souhaitent, en tout cas, ont eu la garantie de pouvoir rester dans le quartier. Et oui, ces quartiers, notamment certains qui sont très largement, voire comme le nôtre, totalement en catégorie dite de PLAI, et même en palulo, c'est-à-dire en termes de revenus dans une catégorie souvent de personnes qui sont dans une grande fragilité sociale, mettre aussi un peu d'immeubles en accession à la propriété, c'est en effet contribuer à rétablir une mixité sociale qui, à mon sens, est quand même une des conditions de l'égalité des chances et donc une de nos missions aussi en tant qu'élu local. Et puis, je voudrais terminer mon intervention, Monsieur le Président, si vous me le permettez, mon cher Jean-Didier,
bien sûr,
en disant que je suis un peu surpris de voir au niveau de ce conseil territorial, finalement, des espèces de troisième mi-temps de débats qui ont déjà eu lieu dans les conseils municipaux. Les différents conseillers territoriaux qui sont élus l'ont été dans des conseils municipaux qui sont élus du suffrage universel et qui ont donc toute légitimité à décider de ce qui est l'intérêt de leur ville. Et je suis un peu surpris de voir que, malgré un pacte de gouvernance qui est assez clair et qui, je crois, nous a plutôt réussi depuis plusieurs années sous ta présidence, un certain nombre de conseillers territoriaux essayent de, si j'ose dire, de créer une sorte de deuxième débat après ceux qui ont eu lieu dans l'enceinte des conseils municipaux. On peut échanger des informations, c'est toujours intéressant, mais ce type de débat ne me paraît pas productif et peu respectueux finalement de l'expression du suffrage démocratique qui a eu lieu au moment des municipales et qui est municipal justement et qui n'est pas territorial. Voilà ce que je voulais dire.
Merci cher Laurent.
Merci cher Laurent.
J'ai Jean-Michel Poulet également qui m'a demandé la parole.
Oui, merci Monsieur le Président. Alors je fais, très court, c'est... juste pour dire qu'au regard des échanges qu'on a pu avoir sur ce sujet-là, pour vous prévenir que les conseillères et conseillers du groupe communiste et citoyen ne prendront pas part au vote. Merci, Monsieur le Président.
Merci beaucoup. Bon, ça me permet quand même de redire une chose.
Mais Monsieur le Président, vous ne voyez pas ma petite main levée depuis un grand moment, qui me permet de me signaler.
Pardon, excusez-moi, Madame Mecker, je vous avais pas vu en effet. Donc je vous donne la parole bien volontiers. Ce n'est pas du tout une façon pour moi d'essayer de vous priver de la parole. Vous le savez bien.
Non, mais Monsieur le Président, je n'en doute pas. Les Verts, je ne sais pas, mais en tout cas ici, c'est quand même une instance démocratique, on a le droit de s'exprimer et je sais que vous partagez. Donc en fait, la valeur patrimoine, et revenons sur la butte rouge, qui est un cas quand même assez particulier, qui vaut le coup qu'on s'y arrête quelques minutes, même si on n'habite pas Châtenay-Malabry. Donc la valeur patrimoniale, architecturale et culturelle de la cité de la butte rouge est reconnue très fortement et largement par les architectes et les acteurs en charge de la protection du patrimoine. Ce site demande donc une approche qui permette à la fois la rénovation de l'habitat, absolument nécessaire, la modernisation de ses usages, bien sûr, et la protection du patrimoine. Par ailleurs, la butte rouge est aussi un grand patrimoine naturel que l'on n'en peut pas dissocier du patrimoine architectural. C'est même cette intrication qui en a fait une cité-jardin remarquable. Il faut donc préserver cette nature dans la cité, à deux titres. Au nom du patrimoine et au nom d'un urbanisme innovant, respectant les données que nous impose la transition écologique dans laquelle nous devons entrer vite. Plus que jamais, en cette période de réchauffement climatique et d'effondrement de la biodiversité en ville, chaque arbre est devenu précieux, chaque mètre carré de pleine terre est à protéger. Cette cité qui doit être rénovée doit l'être dans cet esprit et ce respect, à la fois de son passé patrimonial, mais aussi de son avenir, qui doit s'ancrer dans les principes d'un urbanisme contemporain, celui qui doit accompagner la transition écologique et sociale pour le confort des habitants. La butte rouge, en ce sens, doit être une zone d'innovation, en gommant la soi-disant contradiction entre patrimoine et progrès et avenir, qui n'a pas lieu d'être ici. Une belle résolution, comme on dirait en musique, qui doit signer la réussite de ce projet. Une cité-jardin est aujourd'hui un modèle d'avenir. Pour ce faire, celle-ci mérite d'être respectée très précisément dans son architecture et son esprit ouvert et tellement moderne, lié intrinsèquement aujourd'hui plus qu'hier à notre avenir. Nous ne sommes pas encore complètement convaincus que ce soit le cas dans l'état actuel du projet, qui semble encore résolument tourné vers hier, vers une densification qui sera invivable à très court terme, vers une artificialisation propreignante, dangereuse, créatrice d'îlots de chaleur urbaine et de mise en danger de la biodiversité. Bref, pour nous, encore, ni le respect du patrimoine, ni une vision d'avenir n'habitent encore suffisamment ce projet. Ce qui d'emblée est loin finalement d'être un gage pour le projet social, qui doit être aussi au cœur du sujet. Nous attendons les prescriptions de l'État, qui viendront compléter notre regard sur l'évolution de ce site, avec les précautions, les protections qui s'appliqueront au PLU, du fait des protections très importantes, nous le souhaitons, que l'État va apporter aussi dans le cadre du classement de la butte rouge au titre des sites patrimoniaux remarquables. Par ailleurs, c'est vrai, et tant pis pour les balivernes qu'on va nous coller sur le dos, la logique des opérations de renouvellement urbain qui chasse souvent les habitants sous couvert d'amélioration d'un habitat qui, du coup, du fait d'une augmentation des loyers, échappe aux plus modestes, nous incite aujourd'hui à la prudence. Je vous remercie.
Alors, on a ensuite Élodie Dorfiac. Je donnerai en dernier la parole à Monsieur le maire et vice-président en charge de l'aménagement, Carl Sego.
Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. Je vais faire vite, mes chers collègues. Je voulais prendre la parole au nom d'une partie des élus de Châtillon, rapidement. Donc, Madame Mercier l'a dit, la valeur patrimoniale de la cité de la Butte Rouge, elle est largement reconnue au-delà des limites de Châtenay. Et c'est à ce titre que nous nous autorisons, en tant qu'élus de Châtillon, à prendre position ce soir sur une question de PLU d'un de nos voisins. Architectes, spécialistes du patrimoine, collectifs d'habitants ont largement expliqué ces derniers mois combien la rénovation de ce site demande une approche qui permette à la fois la rénovation de l'habitat, la protection de ses habitants et la protection du patrimoine culturel et naturel de cette cité-jardin. Plus que jamais, en cette période où la solidarité doit être une valeur vivante, en cette période où la transition écologique est une urgence, cette cité, qui doit être rénovée, c'est certain, Elle doit l'être dans cette optique de respect de son passé patrimonial, de son passé social et de sa réalité sociale, pardon, et de la préservation de la nature en ville. Bénéficier d'une cité-jardin sur son territoire, c'est aujourd'hui un modèle d'avenir. Il faut réhabiliter pour l'avenir, c'est certain, mais pour cela, il faut savoir préserver les racines de ce quartier et pas seulement à hauteur de 20% du bâti, malheureusement. Donc, plusieurs d'entre nous, adjoints à Madame la maire de Châtillon, nous avons la conviction, malheureusement, que ce n'est pas le cas pour le projet actuel de réhabilitation. En revanche, par respect pour le pacte de gouvernance qui nous lie au sein du territoire, plusieurs d'entre nous, ce soir, avons choisi de nous abstenir sur cette délibération. Je vous remercie.
Stéphane Jacquot.
Oui, merci Monsieur le Président de me donner la parole. Donc, au nom du groupe que j'ai formé, donc avec Monsieur Mergy, Madame Renard, Monsieur Le Gall, donc qui est le groupe Rassemblement Social-Démocrate et Écologiste, ils prendront, enfin pour leur part, eux, donc ils vont voter contre. Et pour ma part, je vais rester en cohérence avec la prise de parole à l'instant de Madame Dorfiak et donc m'abstenir sur ce projet. Merci.
Merci. Alors, un dernier mot, Monsieur Astic, rapidement, parce qu'on a dit qu'on donnait ensuite la parole à Monsieur Segault.
Oui, absolument. Merci, Monsieur le Président. Ma question est courte, effectivement. Je suis un peu perplexe parce que, en commission, Monsieur Segault nous avait brillamment présenté les objectifs qui étaient de conserver 43% des bâtiments avec un intérêt, qui présentent un intérêt architectural. Bon, plutôt que 43% des bâtiments étaient des bâtiments avec un intérêt architectural et qui seront conservés et rénovés, que 18% des bâtiments seraient détruits et 39% ne présentant pas d'intérêt architectural seraient détruits ou rénovés. Et en fait, dans le débat qui s'est engagé depuis tout à l'heure, on parle de 20%, moi j'avais en tête 43%, je comprends qu'il faille rénover et qu'il faille améliorer à la fois sur l'isolation thermique, phonique, etc. Mais du coup, je suis un peu perplexe, et si M. Segault pouvait nous préciser tout ça, ce serait formidable. Merci beaucoup.
Je n'en doute pas. Il a la parole.
Merci, bonsoir mes chers collègues. Merci pour ces questions. Je suis ravi en tout cas que la Cité Jardin suscite de l'intérêt, parce que évidemment, il y a eu des échanges et il y a eu des prises de position par rapport à cette Cité Jardin, et qui malheureusement souvent étaient extérieurs et en avançant des chiffres qui étaient totalement erronés. Et M. Astic, vous venez de le démontrer en expliquant que vous étiez surpris d'entendre une destruction à hauteur de 80%. Ce qui est compréhensible de la part de gens extérieurs ou de journalistes qui ne souhaitent pas se plonger dans un dossier, est plus surprenant ce soir. Parce que vous avez toutes les informations dans cette modification de PLU et que vous avez la possibilité de vérifier. Et donc, évidemment, quand sont avancés des chiffres comme 80%, il y a des journaux qui sont permis ça, ça a été évolutif, ça a été jusqu'à 87%, enfin voilà, les chiffres fantaisistes. Mais dans les 250 pages, en tout cas, de cette modification de PLU, c'est très clair. Et ce que j'ai indiqué en commission, vous le retrouverez. C'est-à-dire qu'il y a 43% des immeubles qui, pris isolément, et ça, il s'agit d'un travail non pas de la municipalité, mais un travail fin réalisé avec la DRAC, avec des spécialistes. En tout cas, il y a 43% des bâtiments qui présentent de façon isolément, pris isolément, un intérêt architectural. Ça peut être des mots des natures, un détail art déco, ça peut être la serrurerie, voilà, il y a plein de petites choses. Évidemment, il y a un engagement pour conserver, pour rénover ces 43% de bâtiments qui, pris, je répète, isolément présentent un intérêt architectural. Il y a 18%, ils vont être soit déconstruits, reconstruits sur l'emprise, soit démolis. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de créer des poches de stationnement sous les bâtiments, sous certains bâtiments, en utilisant la topographie justement du site, pour libérer les cœurs d'îlots et les rendre paysagers, parce que il faut savoir que initialement la Cité Jardin c'était un lieu de mixité et un vrai site paysager, sauf que évidemment ça a été dévoyé pour plusieurs raisons. D'une part, une rénovation en 1985 qui a conduit à conventionner de façon uniforme tous les logements, et c'est ce que Laurent Vastel expliquait, avec du plus palulosé, il s'agit de façon uniforme d'avoir des logements sociaux les plus avec les montants de location les plus faibles d'Île-de-France, 3,50 € le mètre carré. Et puis, évidemment, il y a les modes de vie qui ont évolué, et évidemment l'utilisation de la voiture individuelle qui a fait qu'il y a eu beaucoup de surfaces qui étaient perméables, qui sont devenues imperméables et qui ont accueilli des véhicules en stationnement. Les gens ne pouvant pas faire autrement. Ce type de jardin n'était pas prévu pour cette évolution des modes de vie. Et l'objectif en créant des parkings souterrains, c'est de faire des poches de stationnement qui vont nous permettre de libérer les cœurs d'îlots et libérer les perspectives, et avec un objectif qui est dans la modification de PLU, de réduire de 40% les surfaces imperméabilisées. Voilà. Donc, j'ai entendu aussi des choses tout à fait pertinentes. La Cité Jardin est un modèle d'avenir. C'est ce que vous avez, ce qu'une personne a dit. C'est mon avis. Nous souhaitons faire la Cité Jardin du 21e siècle en étant respectueux du patrimoine, mais en faisant aussi une Cité Jardin adaptée aux besoins et aux modes de vie actuels. Et puis, il y a les 43% à préserver, les 18% qui vont être soit démolis, reconstruits, vous l'avez compris, pour créer des poches de stationnement, ou certains bâtiments sont amenés à être très rares, hein, vont être amenés à être démolis pour libérer des perspectives ou libérer des accès pour rejoindre des espaces verts. Et puis, il y a 39%, reste 39% de bâtiments qui, pris isolément, ne présentent pas un intérêt architectural particulier, on va dire. Et donc, là, ça reste ouvert. C'est-à-dire, doit-on faire de la rénovation, doit-on faire aussi de la démolition-reconstruction? On sait qu'il y aura les deux, mais où placer le curseur? Et là, ça se fera en concertation, évidemment, avec l'État, et je vais vous l'expliquer, mais ça se fera en fonction de résultats des études des îlots-tests qui ont d'ores et déjà débuté, qui concernent 241 logements. Et l'objectif, c'est d'avoir tous les modes constructifs sur ces îlots tests, de la rénovation stricte, de la rénovation lourde, de la démolition reconstruction, pour en tirer les enseignements en matière de cadre de vie, mais également en matière d'impact environnemental, en matière économique aussi, parce que ça, il y a des équilibres économiques évidemment à trouver. Donc voilà la démarche dans laquelle on se trouve. C'est l'objectif, c'est de valoriser le patrimoine architectural et paysager. Nous, on lance cette modification de PLU pour, premièrement, c'est un acte courageux, hein, mais pour, premièrement, offrir un cadre de vie et des conditions de vie meilleures aux habitants. Actuellement, cette cité jardin accueille 9900 habitants qui vivent dans des conditions qui sont indignes du 21e siècle en France. Je ne vais pas lister les maux de cette cité jardin, problème d'humidité chronique avec des moisissures, ce qui fait que notamment les personnes les plus fragiles, les enfants, doivent aller régulièrement chez le médecin pour des problèmes d'asthme, pour des problèmes respiratoires qui peuvent être beaucoup plus graves. Pas d'accessibilité, sur 216 bâtiments, 3 disposent d'ascenseurs, et encore, il y en a un qui dessert des demi-étages. Même les rez-de-chaussée sont surélevés, donc il faut grimper quelques marches pour accéder à ces logements. Donc, une isolation phonique pratiquement inexistante, ce qui crée des tensions sociales, pas de locaux pour des poussettes, pas de locaux pour des vélos, les problèmes de stationnement, je les ai évoqués précédemment. Donc vous voyez, les maux de cette cité jardin sont nombreux, et l'objectif de ce projet de rénovation, c'est d'améliorer les conditions de vie de ces châtenaisiens. Concernant ce que ça a été évoqué précédemment, concernant notre démarche, elle n'est pas soudaine, bien au contraire. Elle a été engagée il y a 5 ans. Il y a 5 ans, pendant lesquels nous avons concerté avec la population, avec de nombreuses initiatives. Je peux vous les rappeler, mais il y avait Enfin voilà, il y a plein de choses qui ont été faites, des ateliers, des sondages. Voilà, c'était vraiment très nombreuses concertations, une importante concertation avec la population. Il y avait également donc un travail très fin établi avec les différents acteurs de cette rénovation, bien évidemment le propriétaire, Haute-Bièvre Habitat, mais également les services de l'État, et tous les services de l'État, la DRUA, la DRIL, la DRAC, évidemment le préfet de région, le préfet du département, qui se sont beaucoup investis, et nous sommes arrivés à un consensus, cette modification du PLU, c'est un consensus pour on va dire une première démarche de préservation. Parce que il s'agit pas d'un cette modification de PLU, c'est pas le projet véritablement. C'est un cadre réglementaire qui d'ores et déjà permet de préserver cette cité jardin. 65 hectares ne doivent pas être traités de la même façon que le reste de la ville. Actuellement, avec le PLU actuel, tant qu'il n'est pas voté ce soir, il y a la possibilité de construire, par exemple, sur les espaces verts, entre les bâtiments, alors que cette modification de PLU restreint fortement, en tout cas, les possibilités de construction. Et puis, d'ores et déjà, flèche tout un patrimoine architectural qu'il convient de conserver, notamment dans la tranche historique de la Cité-Jardin, parce que la Cité-Jardin n'est pas aussi quelque chose d'homogène. Il y a différentes tranches de construction avec différentes qualités de matériaux, différentes qualités architecturales, et il convient évidemment d'avoir un traitement beaucoup plus fin que ce qu'on entend. Donc c'est vraiment une démarche importante, et cette modification de PLU est le premier pas, on va dire, dans la protection de ce vaste quartier. Je dois porter à votre connaissance, toujours dans le processus qui nous a conduit à cette modification de PLU, et ça a été rappelé par Benoît Beau et Laurent Bastel, c'est qu'il y a eu aussi un engagement fort lors des dernières élections municipales pour rénover cette cité-jardin. Et je tiens à préciser une chose, c'est que nous avons été élus au premier tour, mais c'est dans les quartiers, dans les bureaux de vote de cette cité-jardin, il y en a 4 que nous avons obtenu le meilleur score, avec une moyenne dès le premier tour, moyenne de ces 4 bureaux de vote, à 71,46%. Donc c'est un engagement de la part des élus municipaux pour vraiment engager cette rénovation et améliorer leur cadre de vie. Et le souhait de notre commune, de notre ville, c'est de le faire en étant respectueux de l'idée de la cité jardin initiale, qui était une cité dans laquelle il y avait de la mixité sociale, fonctionnelle, et un traitement paysager qui était exceptionnel et qui a été dégradé au fil des ans, notamment parce que ce que j'ai évoqué précédemment. Je tiens à préciser aussi que je n'y étais pas obligé, mais j'ai soumis au conseil municipal cette modification de PLU pour avoir l'avis des élus locaux. Il y a eu un long débat qui a duré près de 2 heures, à l'issue duquel seulement 2 conseillers municipaux se sont exprimés contre. Donc c'est quelque chose d'assez fort. Je rappelle que l'opposition au sein de mon conseil municipal est composée de 6 personnes. Sur ces 6 personnes, seuls 2 élus se sont exprimés contre. Donc vous voyez, c'est un processus qui, en tout cas, n'est pas sorti du chapeau et l'aboutissement d'un long travail, notamment réalisé avec l'État et avec la DRAC. D'ailleurs, le préfet a émis un avis favorable, et bien sûr le commissaire enquêteur, qui est désigné par le président du tribunal administratif, a émis sur cette modification du PLU, à l'issue de l'enquête publique, un avis favorable sans réserve. Et là aussi, c'est quand même un élément dont il convient de prendre acte, et notamment dans les positions de chacun. Concernant ce qui n'est pas inscrit dans cette modification de PLU, mais que je souhaite porter à votre connaissance, c'est que lors du prochain conseil municipal, comme nous y étions engagés, mais il ne s'agissait pas d'accéder à une demande, c'était le souhait de la ville, nous allons passer une délibération pour lancer la démarche de site patrimonial remarquable. Et parallèlement, enfin, au cours du même conseil, nous allons m'autoriser à signer, si le conseil municipal l'accepte, un protocole opérationnel rédigé avec le service de l'État, Audièvre Habitat, c'est-à-dire le propriétaire, le conseil départemental, Vallée-Sud-Grand-Paris également, pour accompagner la rénovation de ces trois îlots-tests et également le lancement de la phase en rue. Et bien sûr, en attendant l'établissement de ce site patrimonial remarquable à laquelle la ville a toujours été favorable, je tiens à le souligner. Nous sommes favorables. Il y a une réflexion concernant quelque chose de très technique qui concerne les PVAP ou les PSMV. Ce sont des démarches évidemment légèrement différentes que M. Mauger a indiqué pour le site patrimonial remarquable. C'est prématuré en tout cas d'y répondre actuellement, mais ce qui ressort des travaux réalisés avec la DRAC et le ministère de la Culture, c'est que préserver le paysage et l'architecture se ferait plutôt au travers d'un PVAP, parce que ça est considéré comme l'outil de gestion le plus adapté, notamment c'est lié à la temporalité de ce projet qui va dépasser la décennie. Donc voilà, vous comprenez, nous sommes très attachés à la Cité Jardin, nous sommes très attachés aux habitants qui y vivent. Il y a aussi un engagement vis-à-vis de ces habitants pour qu'ils soient relogés. Je le répète, il y a 241 logements qui sont d'ores et déjà, qui font partie des îlots test et qui sont déjà, dont les locataires, plus de la moitié, ont déjà été relogés. L'objectif, il y a une enquête sociale. L'objectif, c'est d'essayer de répondre à leurs besoins. Ils sont évidemment logés sur Châtenay-Malabry. Il y a des questions aussi dans les interventions d'une éventuelle destruction de logements sociaux. De toute façon, c'est quelque chose qui est interdit. Et il y a un engagement, c'est une obligation de toute façon à une reconstitution prioritairement au sein de la ville ou plus largement à l'échelle du territoire, voire du département. Mais en tout cas, il n'y aura pas de destruction de logements sociaux puisque tous doivent être reconstitués. Voilà, j'espère avoir répondu aux principales interrogations qui étaient les vôtres et avoir rassuré un petit peu tout le monde concernant cette modification du PLU.
Je crois que c'est le cas.
Voilà, et destiné aux habitants, principalement, parce que cette cité jardin n'a de sens, et ces bâtiments qui existent n'ont de sens que pour les habitants qui sont abrités.
Je crois que c'est largement le cas, et juste avant de passer au vote, je voudrais simplement ajouter brièvement trois choses. Rappeler qu'il a été question de l'expression démocratique. Elle a lieu évidemment dans cette assemblée, dans les conseils municipaux, mais également dans les urnes. Et que les chiffres de satisfaction dans ces quartiers exprimés à l'occasion des élections municipales me paraît tout à fait sans appel. Et je pense que les élus qui se sont exprimés contre le projet devraient un petit peu se référer aux résultats des urnes. Deuxièmement, ce résultat des urnes, il se traduit ensuite dans le fonctionnement de cette assemblée à travers le pacte de gouvernance qui nous unit. Et je voudrais attirer l'attention des élus d'autres sensibilités politiques que celles de la municipalité de Châtenay-Malabry, qui eux-mêmes appartiennent à des majorités municipales, qu'il y ait en clair des élus de gauche, d'opposition, qui soient contre ce projet et qui solidaires entre eux, entre opposition, s'expriment de façon véhémente contre un projet porté par une municipalité de droite. Quelque part, je peux le comprendre, même si ça me paraît assez infondé en l'espèce. Mais que des élus de gauche appartenant à des majorités de gauche liées par le pacte de territoire se permettent de critiquer de tels projets, ne pas prendre part au vote ou s'abstenir, ça me paraît effectivement être le minimum syndical en la matière. Mais s'exprimer de la sorte, je pense que ça dépasse un peu le cadre de notre pacte de gouvernance. Parce que si L'ensemble des conseillers de la majorité du territoire de droite et du centre venaient à s'exprimer, à prendre des positions publiques et éventuellement à s'abstenir lorsqu'il y a des votes sur des PLU de d'autres municipalités. Je pense que ça deviendrait un problème politique pour le fonctionnement de notre territoire. Ce qu'on s'est toujours dit, c'est qu'on respectait le vote exprimé par le peuple dans chacune des villes, en tout cas tant que il n'y a pas de vote au suffrage universel direct pour élire un président de territoire. Voilà. Et je pense que nous sommes tous opposés à cette évolution. Donc tant que je serai le président de ce territoire, je veillerai au respect de ce pacte de gouvernance, et j'invite les élus de toutes les majorités à s'y référer et à faire attention à son respect le plus vigilant. Bon, enfin sur le fond, je crois que vous devriez quand même, pour ceux qui se sont exprimés contre le projet, quand même avoir un petit coup d'œil dans le rétroviseur. Benoît Blot l'a fait de façon très énergique, mais franchement, à chaque fois qu'il y a un projet de ce type sur le territoire, depuis des décennies, à chaque fois, vous nous faites la même chanson. Donc la chanson, effectivement, on la connaît. Et je ne comprends pas que vous ne fassiez pas évoluer un minimum vos propos en la matière. Voilà. Alors que l'expérience montre qu'à la fin, les habitants sont quand même très heureux. Évidemment, dans les enquêtes publiques, on sait très bien que ceux qui se déplacent sont quasiment uniquement ceux qui sont opposés au projet. Mais heureusement, les avis des commissaires enquêteurs ne sont pas au poids. Voilà. Ils sont basés quand même sur des éléments les plus objectifs possibles dans une majorité de cas. Et même si on devait prendre l'avis de la population, n'est pas toujours la somme des intérêts particuliers n'est pas toujours égale à l'intérêt général. Voilà. Et je peux vous dire que moi-même ayant mené des projets de rénovation urbaine et notamment sur ma ville, au début, la quasi-intégralité est opposée. Et ensuite, la quasi-intégralité dit, mais quand est-ce que vous allez le faire? Vite, vite, faites-le. Et si je peux être relogé dans les premiers, relogez-moi dans les premiers. Et c'est la même chose au Plessis, c'est la même chose à Fontenay, c'est la même chose dans tous les secteurs, et même dans les villes, dans les autres villes. Bon. Voilà, ayant fait ces précisions et ces rappels, nous passons donc au vote. Alors, on va suivre le vote de façon attentive. Qui ne participe pas au vote ? Monsieur Poulet, Monsieur Le Gall et ses pouvoirs.
Non, juste pour mon pouvoir.
Votre pouvoir, Monsieur Le Gall.
Ouais.
Donc le pouvoir de Monsieur Le Gall, je ne sais pas si on peut faire ça, on peut faire ça ? On peut faire ça. Le pouvoir de Monsieur Le Gall, Monsieur Poulet. Alors, est-ce qu'on peut stabiliser les votes, c'est possible ? Donc, ne prennent pas part au vote. Monsieur Le Gall, Monsieur Poulet, Monsieur Haddad, Madame Boudjena, pardon. Et Monsieur Gazot ?
Absolument.
Très bien. Et Madame Figuère aussi ? NPPV ? Très bien, nous en prenons bonne note. Baissez les mains, s'il vous plaît. Baissez toutes les mains, s'il vous plaît. Merci. Qui ? On peut baisser toutes les mains, s'il vous plaît. Ah, disons que c'est compliqué. Hein.
C'est dur à baisser la main.
Parfait. C'est fait. Qui est contre ? Monsieur Mergy, Monsieur Le Gall, Monsieur Dincher, Monsieur Maugère. Merci, baissez les mains. Qui s'abstient ? Monsieur Jacot, Monsieur Ars, Monsieur Vernant, Monsieur Candel, Monsieur Duru, Madame Parmentier. Alors, on va attendre que ça soit stabilisé. C'est bon, c'est stabilisé, donc je reprends. Monsieur Jacot, Madame Parmentier, Monsieur Duru, Monsieur Candel, Monsieur Vernant, Monsieur Ars, Madame Sauvé, Madame Moutaoukil, et Madame Dorfiac, ainsi que Françoise Monceny et Lounès Adroud. Le reste pour, c'est adopté.
Non, moi j'ai dû lever la main aussi, Madame Gourier, pareil aussi. Pardon.
Donc Madame Gourier, abstention.
Oui, voilà, merci.
Et Madame Becker, Monsieur le Président.
C'est pas possible, c'est pas possible. Quel salaud.
Et Madame Becker, si tout le monde peut surveiller son langage et que nos débats restent courtois, s'il vous plaît.
Ou son micro.
Parfait. Nous avons pris bonne note de tous les votes. C'est adopté. Nous passons à la délibération.